En fait, l'un des grands enjeux de cette élection présidentielle, ce n'est même pas la victoire qui sera confirmée d'Obiangueme Mbazogo, c'est plutôt le grand inconnu. Va-t-il aller au terme de son nouveau mandat? Va-t-il laisser la place au fils? Parce que la grosse question qui se pose en ce moment à Malabo, que tout le monde se pose à Malabo, c'est de savoir quelle stratégie va-t-il adopter. Parce que selon la constitution équato-guinéenne, le successeur constitutionnel, c'est le vice-président de la République. Et le fils Théodore Nguema Obiang est le vice-président de la République. Ça veut dire que des hypothèses ont commencé à surgir de partout à Malabo. Certains disent que l'idée du président Obiang, c'est de prendre l'élection présidentielle, de remporter l'élection présidentielle, de se retirer du pouvoir avant la fin de son mandat et créer la vacance à la tête de l'État. À ce moment, la constitution sera appliquée, c'est-à-dire faire passer le fils à la tête du pays selon la constitution et de manière légale. Et là, ça puisque le fils n'a pas tout à fait l'assentiment des Équato-Guinéens.
Alors, le régime de Théodore Obiang Nguema a réussi le pari d'emprisonner 150 militants en quelques jours du parti interdit, Citoyen pour l'innovation. Alors qu'on sait que répression et élection ne sont pas des thèmes compatibles, pourquoi y a-t-il jamais de sanctions contre la Guinée équatoriale?
C'est assez curieux, on a l'impression que la communauté internationale adoube un peu ces actes antidémocratiques du chef d'État équato-guinéen. Vous avez un petit parti, Convergence pour, aux citoyens pour l'innovation, qui est un parti qui a même d'ailleurs été dissous en Guinée équatoriale en 2019, après le coup d'État manqué en 2017, où on a accusé le leader de ce parti d'être faire partie des membres de ce coup d'État. Son parti a été dissous. Alors, le fait que la communauté internationale ne bronche pas le petit doigt, peut-être montrer la complicité de ces communautés internationales face à toutes ces exactions d'un pays dit démocratique. C'est assez curieux et ça peut beaucoup réfléchir les Équato-Guinéens. Ont-ils encore la foi sur ces communautés internationales qui paient un deux pour deux mesures? Quand il s'agit de certains pays, on lève le ton, mais par contre, certains d'autres, on ne fait même pas allusion. On a l'impression que c'est un pays qui n'existe pas sur le plan international. Alors, les dirigeants se disent, on est tout droit permis, on peut faire tout ce qu'on veut, on n'a pas de rien.
Donc, le raz de marée en Guinée équatoriale, c'est la norme. Quels sont, selon vous, les paramètres qui pourraient changer la donne dans ce pays?
Ça sera difficile, parce que sur le plan intérieur, le président Obiang maîtrise les leviers sur tous les aspects, que ce soit politique, économique, social. Alors, ce qui pourrait peut-être changer la donne, ça viendrait d'un sursaut d'orgueil des propres Équato-Guinéens. On ne sait pas, est-ce une population qui va se réveiller très difficilement? C'est difficile de le croire, mais vous savez, l'être humain étant ondoyant et divers, qui sait? Peut-être que les Équato-Guinéens peuvent avoir un sursaut d'orgueil et dire, on en a marre, mettons fin à cette mascarade. Peut-être, parce qu'il y a une grosse opposition Équato-Guinéenne qui est à l'étranger, qui aussi pousse ses pions. Vous avez certains qui sont basés en Espagne et qui vont donner leur voix pour dire ça y est, on en a assez, il faudrait qu'on mette fin à ce régime qui ne veut plus s'en arrêter. Ça devient une sorte de royaume démocratique.